11 novembre 2008. Une dizaine de personnes est arrêtée ce matin-là au village de Tarnac en Corrèze et ailleurs en France.
Demain que s'ouvre en correctionnel le procès du groupe de Tarnac, 3 semaines d'audience après un feuilleton judiciaire de 10 ans.
C'est l'opération Taïga.
Voilà la fameuse épicerie de Tarnac.
Jugée pour dégradation sur des voies de chemin de fer.
Et cette communauté de quelques dizaines de militants qui continuent de se retrouver au magasin général.
Et les gens sont dans une incrédulité totale.
Les personnes qui sont arrêtées sont accusées de faire partie de la mouvance anarcho-autonome. Le village est bouclé.
Pourquoi ils sont venus vivre ici?
Les habitants sont peu nombreux à accepter
de s'exprimer sur le sujet.
Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai ça. D'ailleurs, des habitants concernés du plateau de Mille Vaches ont décidé d'aller traîner leurs bottes dans le tribunal de grande instance de Paris. Nos envoyés spéciaux suivront donc de très près le procès de l'affaire dite de Tarnac du 13 au 30 mars. Pour vous tenir informés, retrouvez-nous du mercredi au vendredi, après la rediff du magazine de 12h30, pour un récit au jour le jour de ce que nous aurons vu et entendu pendant ce procès. Parce que les blaireaux du plateau ne lâchent pas l'affaire, rendez-vous sur les ondes de Radio Vassivière et en podcast sur le site de Radio Vassivière. Et bonjour à toutes et à tous. 3e session dans les locaux de Radio Campus Paris pour vous donner les impressions sur le 3e jour du procès de l'affaire Tarnac. Beaucoup de fatigue accumulée cette semaine, énormément d'attentes, de moins en moins de patience. Il se fait l'envie de revenir à nos moutons. Mais bref, la journée a débuté comme d'habitude à faire la queue devant un tribunal quotidiennement engorgé. 1h30, dont un tiers passé à s'embrouiller avec une dizaine de mecs voulant jouer des bras pour passer devant. Et je peux vous dire, fidèle au nom de cette émission, j'ai rien lâché. La 3e journée était donc consacrée au sabotage de caténaire ayant eu lieu en 2008. Benjamin, l'un des inculpés habitant de Tarnac, retrace le fil de cette journée.
Alors là, on vient de passer la 3e journée d'audience dans le procès de Tarnac. Ce dont il était question aujourd'hui, c'était... le début des travaux sur la question des sabotages, sur des considérations assez techniques sur les caténaires et la révélation de l'objet des crochets. Donc on a eu droit à un numéro de clown de deux experts qui avaient été commissionnés dans l'instruction, qui devaient à la fois statuer sur l'objet du crochet et sur son effet sur les caténaires. Et tout l'enjeu de cette phase-là, qui était une espèce de le moment du déroulé de la juge, qui était de dérouler les éléments techniques et les circonstances dans lesquelles les sabotages ont eu lieu, a été de tenter de mettre en lumière les premiers éléments qui mettent en doute la version des policiers, donc les policiers qui disent avoir suivi Julien Dune jusqu'au bord des voies, et de montrer dans l'énoncé technique des circonstances dans lesquelles les sabotages ont été faits que les policiers qui prétendent avoir été sur les lieux et prétendent avoir vu les dégradations faites sur les lignes n'y étaient pas et n'ont pas pu être là, et notamment à travers les déclarations des agents SNCF qui disent n'avoir pas été prévenus avant le matin. En fait, pour résumer un petit peu l'enjeu des débats qui ont eu lieu en début d'après-midi, tant avec le représentant des parties civiles qui représentait la SNCF que dans la période préalable, c'est qu'on parle des pièces qui ont été réunies par les gendarmes au moment de l'enquête de flagrance qui a été déclenchée par les gendarmes avant que la SDAT se ressaisisse de l'affaire. Et il se trouve que les gendarmes sont au courant qu'il y avait un dispositif de la SDAT et de la DCRI qui prétendait être sur place, mais qu'eux, dès le départ, doutent de la véracité de cette information. C'est-à-dire que les gendarmes, pendant tout le début du moment des enquêtes sur les lieux des sabotages, enquêtent à la fois sur le fait de savoir quelles sont les traces d'éventuels saboteurs, mais aussi enquête pour savoir si les flics si la SDAT et la DCRI étaient effectivement sur les lieux ou pas. Ce qui les fait remonter depuis les constatations sur les lieux des sabotages jusqu'au PCSUJ, qui est le central de contrôle sécurité de la SNCF, et remonte et questionne l'ensemble des gens qui étaient en poste à ce moment-là pour savoir si oui ou non, ils ont eu un signalement de la part de la SDAT sur le fait que des gens étaient entrés sur l'emprise des voies. Et tous les éléments qui réunissent à ce moment-là, juste avant qu'ils soient dessaisis, donc on ne puisse pas avoir la suite, tout tend à dire qu'il n'y a jamais eu de signalement de la SDAT avant une heure très tardive. Ce qui tendrait à laisser entendre que la SDAT et les séries n'étaient pas là et qu'ils ont essayé de reconstruire après coup le fait qu'ils étaient là et qu'ils ont signalé le fait que des gens étaient entrés sur la voie. Alors notamment, il y a un épisode très cocasse où il y a les interviews successives des employés et le moment où on leur dit « Bon, mais les appels que vous avez sur les questions de sécurité sur les voies sont enregistrés sur un terminal. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver les traces d'un éventuel appel de la police à ce moment-là » Il dit non, parce que le problème, c'est que dans les 24 heures, du 7 au 9 novembre, il y a eu un problème de connectique du central qui fait qu'aucun appel n'a été enregistré. Donc on a eu une grosse passe d'armes entre la défense et le procureur. Procureur disant que la défense cherchait à discréditer par avance le travail des policiers. Et la défense cherchant à établir que tout, dans les énoncés, y compris dans les énoncés techniques, les relevés techniques faits par les gendarmes, met en doute la version des policiers qui va se dérouler à partir de demain avec le PV des 104. L'après-midi a été à aborder la question de la revendication, ce qui, du point de vue de la défense, est un point essentiel, parce que la revendication des actes de sabotage a été faite depuis l'Allemagne. Le lendemain des sabotages, avec des énoncés très précis sur l'emplacement des sabotages. Or, cette revendication a été écartée dès le début par la police, la SDAT, puis par tout au long des 9 années d'instruction, les enquêteurs ont toujours écarté cette revendication comme étant une espèce de diversion pour justifier à tout prix, au prix de tout un tas de falsifications, le fait qu'il fallait nous arrêter, nous, c'est-à-dire les 10 puis 8 personnes dites du groupe de Tarnac, comme étant un groupuscule fanatisé qui cherchait à mettre l'État à genoux en arrêtant les trains. Et donc, par là même, arriver à recouvrir d'un écran de fumée le fait que c'était une opération qui s'inscrivait dans une histoire très longue, qui est l'histoire du mouvement antinucléaire allemand et qui a pratiqué le débranchage des trains par la technique des crochets depuis des années et des années. Et voilà, un peu tout là aujourd'hui, c'était une espèce de... Tout le monde cherchait à poser le décor pour ce qui va se jouer demain, qui est un peu la bataille centrale du dossier, qui est le déroulé du procès-verbal D104, qui est la supposée filature de Julien Eldune qui les aurait menés jusqu'au bord de la voie TGV Est et qui est contestée depuis 10 ans par la défense comme étant complètement bidonnée. Et réécrite après coup par les policiers pour justifier ces arrestations qui, sans ça, n'auraient aucun sens. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, comme ça a beaucoup ferraillé entre la défense et le ministère public sur les données techniques et sur la possibilité ou non que les policiers ont eu de signaler le fait qu'ils avaient vu un sabotage en étant sur place et des personnes rentrées dans l'emprise de la voie TGV. Et aussi sur le fait que... aucun acte d'instruction n'a jamais été fait, aucun acte d'enquête n'a jamais été fait sur les 4 autres sabotages qui ont eu lieu. Ce qui témoigne encore une fois qu'il s'agissait plus de faire tomber un certain nombre de gens qui étaient pré-identifiés comme coupables que de trouver les gens qui avaient effectivement saboté les caténaires. Et donc ça a pris beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de passes d'armes, on va dire. Et donc tout un tas d'éléments qui devaient être traités aujourd'hui n'ont pas pu se faire. Et donc le déroulé du dossier par la juge... va être modifié, ce qui fait que demain on reste sur le PV des 104 parce qu'il y a des témoins qui sont appelés, mais que les autres éléments qui donnent le contexte général dans lequel se sont faites nos arrestations vont être reportés à plus tard.
Antoine, n'ayant pu assister la veille qu'à une heure d'audience à cause d'une salle affichant complet, a pu ce mercredi profiter de l'entièreté du spectacle. Il nous parle de ce qui, pour lui, ont été les moments forts de la journée.
Alors, il y en a eu plusieurs, je ne sais pas combien, dans ma tête il y en aurait 4 ou 5. Il y a un moment assez amusant, c'est quand même quand il y a une pièce à conviction qui est sortie des scellés. Et cette pièce à conviction, c'est un crochet, le crochet qui a été ramassé apparemment, je crois, à Duzy, et donc qui est mis versé au dossier et qui est ouvert, décellé et qui sort et qui circule au sein de la salle. Et moi, ma surprise, c'est par exemple que je le pensais plus grand, ce crochet. Il est haut d'une vingtaine de centimètres à peine. Je pensais que c'était un truc beaucoup plus gros. Ah oui, tiens. Et puis les gens jouent un peu avec. Enfin, ils se le passent. Alors, t'as un moment où la salle était clairement un peu en ébullition. Moi, je me demandais quand c'est que ça allait applaudir. Tu sens que tout le monde est amusé par le truc. Et quand tu relis ça avec le fait que les experts qui étaient évoqués à l'instant de la SNCF sont arrivés juste après, c'est malheureux que le crochet n'était plus en circulation quand ils sont arrivés, parce qu'ils semblaient aussi eux très attachés à cette histoire de crochet, parce que très fascinés par ce truc-là, et à tel point qu'à un moment donné, un des experts se tourne vers les inculpés en disant que, mais en fait, ce crochet, il est parfait. Mais c'est drôle que cette personne, qui est le mec, l'expert de la SNCF, dise, ah, il est parfait. Ça a fait beaucoup rire. Bon, ça, c'est un des moments forts de la journée, mais après, il y en a d'autres dans des sens peut-être différents. C'est plutôt des moments étonnants. La journée, elle s'ouvre avec la discussion sur un CD qui recense toutes les conversations téléphoniques, et notamment ce CD qui est censé aussi contenir les bornages téléphoniques des personnes présentes à proximité du lieu des sabotages de Duisy dans la nuit du 7 au 8. En fait, la demande a été faite à tous les opérateurs téléphoniques. Il n'y a que SFR qui a répondu immédiatement, parce qu'ensuite la demande a été faite par des gendarmes, des gendarmes de province, qui sont saisis de l'affaire au début, parce qu'ils ne savent pas que c'est une affaire qui va être reprise ensuite par l'antiterrorisme. Et donc ils font leur enquête comme des gendarmes habituels, et ils font un bornage téléphonique. Et SFR répond en premier, Orange, Bouygues ne répondent pas. Et par la suite, d'après ce que j'ai compris, quand la SDAT se reprendra du truc, le fait que Orange et Bouygues n'aient pas répondu sera complètement laissé de côté. Et ce qui fait qu'au final, ça c'est utilisé par la défense, le fait qu'il n'y a aucun bornage téléphonique qui démontre la présence des agents de la SDAT, ils étaient 18 à être présents sur les lieux, et que en plus le parquet n'insiste, ou l'instruction n'insiste absolument pas. Ils prétendent être présents sur les lieux, et leur téléphone, s'ils les avaient dans la poche, ils auraient dû borner. Et en fait, bon, ils sont peut-être pas chez SFR, en tout cas SFR ne renvoie rien, et Bouygues et Orange, on n'a juste pas les réponses, et l'instruction ne s'attachera jamais à connaître les réponses, de savoir si les téléphones des agents de la SDAT étaient effectivement bornés et repérés par les bandes de Bouygues ou Orange, selon l'opérateur. On ne saura jamais. Et en fait, ce CD fait l'objet d'une discussion, parce qu'en réalité, il s'avère que la juge sort un CD qui n'est pas le même CD de données que celui dont dispose la défense. Et donc il y a toute une controverse qui va durer assez longtemps là-dessus, mais qui se termine, quasiment une heure de discussion, à la fin de laquelle la juge dit « je sais pas ». Et là il y a un espèce d'élément très étrange, ou quelque chose qui est censé être très important dans le dossier. La juge s'écrase en disant « mais en fait, je comprends pas, c'est pas normal ». Alors même que la défense continue à appuyer sur le fait qu'il y a quand même des malversations possiblement policière, assez étrange dans cette histoire. Du coup, c'est un élément plutôt bon pour la défense, et en même temps très étrange, c'est très étonnant de voir qu'une pièce aussi importante puisse être, que les CD se mélangent, etc. Et en plus, le CD était abîmé. Ouais. Bon, ça c'est un élément. Un autre, c'est le moment où la juge fait un raisonnement extrêmement spécieux, très bizarre, qui est assez long, où en gros, En un quart d'heure, 10 minutes de récit, on voit clairement qu'elle cherche à faire le lien entre... parce qu'elle part des revendications qui ont été faites en Allemagne, action antinucléaire, ça c'est très très peu dit dans le procès, et surtout c'est très peu dit dans les médias, mais cette pose de crochet, débranchage de TGV, a priori, elle vise à dénoncer le système nucléaire et le fait que notamment les TGV fonctionnent parce qu'il existe des centrales, sinon il n'y aurait pas assez d'énergie pour faire tourner autant de TGV. Quoi. De fait... elle parle de la revendication allemande de cette action, qui revendique aussi des actions en Allemagne, et elle suggère, au fur et à mesure, que la revendication allemande n'est pas une authentique, et qu'elle construit un raisonnement en passant par le fait que des sabotages ont été faits aussi en Italie, à la même période, et qu'en Italie a été retrouvé dans la voiture des prétendus saboteurs un livre ou une brochure qui parle des techniques de sabotage des réseaux ferrés ou transport, et que ce livre a été retrouvé dans le cadre d'une instruction pour terrorisme, entre guillemets, d'ultra-gauche, de ce qu'on appelle l'affaire de la dépanneuse, en gros, les personnes qui ont été inculpées dans cette affaire et qui ont été condamnées apparaissent dans le dossier Tarnac. Et en fait, elle déroule un truc comme ça sur 10 minutes, un quart d'heure, où au final, on voit qu'elle a un raisonnement de procureur. Elle a clairement un raisonnement de procureur, et elle finit par dire que l'incendie de la dépanneuse de police devant le 18e commissariat du 18e arrondissement, qui a été revendiqué par les Corses, en fait, il s'est avéré que cette revendication était fausse, et que du coup, ça prouve bien que des fois, les revendications sont fausses. Ce à quoi la défense répondra fort heureusement que la plupart du temps, en fait, les revendications, elles sont pas fausses, et que c'est pas parce qu'une fois, une revendication a été fausse, que ça avait dû servir pour dire que toutes sont fausses, et que c'est un peu un raisonnement de proc. Franchement, elle pourrait échanger sa place avec le procureur. Ça, c'était assez fort. C'était un moment intéressant. Un autre moment intéressant, c'est quand le mec de la SNCF, qui témoignait en tant que technicien, enfin, non pas technicien, mais je ne sais pas quel est son rôle exactement, c'est la partie civile. Il a son avocat à côté, mais l'avocat ne dira rien. Partie civile de la SNCF dépose des éléments, et ce qui a été pointé tout à l'heure, c'est qu'il y a des incohérences assez bizarres dans la transmission de la chaîne d'information, selon laquelle il y a eu des sabotages, mais en fait personne n'est au courant, mais si, certains sont au courant, mais pas tout le monde, enfin c'est très étrange. Et en fait, il sera questionné par l'avocat de la défense. Donc en tout cas, la partie civile de la SNCF donc parle de cette question de savoir si des personnes ont été repérées aux abords des voies et à quel moment ça a été signalé. Et il y a plein d'incohérences à cet endroit-là. Et à un moment donné, là, donc la défense a le droit aussi de questionner les parties civiles qui interviennent. Et donc l'avocat questionne le mec et il pose plusieurs questions tout en relevant des éléments du dossier qui montrent les incohérences. Et à un moment donné, il pose une question gênante. Et là, la partie civile lève les yeux, regarde le procureur Christen, procureur antiterroriste qui avait déjà vu d'autres histoires, le regarde dans les yeux et attend une réponse de sa part. C'est-à-dire qu'en fait, le mec qui témoigne pour la SNCF comme partie civile, quand on lui pose une question gênante, il demande au procureur ce qu'il doit dire. Et le procureur, à ce moment-là, c'est un échange silencieux, secoue la tête, fait une sorte de signe, et le mec répond une réponse en langue de bois, tout à fait impossible à interpréter. Et ça, c'était assez fort aussi, et ce qui était fou, c'était que ça n'a pas été trop remarqué. Je crois que la juge regardait ailleurs à ce moment-là. Et c'est dommage, parce qu'il y a un niveau de connivence assez hallucinant, quoi. Alors, ça, c'est des petits moments marquants de la journée.
Pour ce qui est de la deuxième journée de Paul dans le tribunal, il a choisi de la partager entre Carlos et Tarnac. Et hier soir, après un repas dans une ambiance chaleureuse, il en a partagé le récit dans le micro de Radio Vassivière.
Aujourd'hui, je n'ai pas fait la queue pour rentrer au tribunal. Je suis arrivé le matin. Je voulais assister au procès de Carlos, pas le chanteur. Il devait comparaître aux assises, enfin en assises, je ne sais pas trop comment on dit, en appel, pour une histoire d'il y a 44 ans. Une histoire de grenade, de mort, dans un drugstore. Mais il n'était pas là ce matin. Il était absent parce qu'il protestait par rapport à des agressions qu'il subit dans la souricière. La souricière, c'est aussi, on appelle ça le dépôt, c'est l'espèce de sous-sol du palais de justice, l'antichambre insalubre entre la prison et la salle d'audience, quoi. Voilà. Elle est, cette souricière, elle est assez fameuse, hein, je crois. Il y a eu quelques histoires dessus. Quelques reportages radio même, il me semble. Alors, ces deux avocats, ils ont fini par plaider sans lui, comme dans les films. En citant Victor Hugo, parce que c'était le nom de la salle d'assises. Comme dans un exposé au collège. Et peut-être dans le nouveau palais de justice, il y aura une salle Orelsan, qui donnera lieu à des plaidoiries tout en couleur. Bon, ils ont invoqué la présomption de culpabilité, ils ont invoqué la création d'Israël, la catastrophe pour les Palestiniens, tout ça. Après, j'ai rejoint les copains, et cet après-midi, de 13h30 à 20h30, c'était encore le sketch. Il y a eu les deux experts, évidemment, hein, vous en avez entendu parler, électricité et ferroviaire, et qui explique à la juge ce qu'est la puissance. C'était un des grands moments de mon après-midi. Alors que la puissance, ils lui ont expliqué que c'était le produit de la tension par l'intensité. 25 000 watts, 25 000 volts, 25 000 ampères... Et puis il y a aussi les avocats qui s'excusent avec éloquence de prendre la parole et leurs effets de manche, la comédia dell'arte, la salle bondée, la chaleur et la sueur, le méchant procureur, la partie civile SNCF qui tremble à la barre. les mensonges de la SDAT, et enfin, le clou du spectacle, enfin plutôt, le fer à béton du spectacle, décelé sous nos yeux. Un grand moment, quoi. Et donc voilà, ils auraient dû prévoir une vente aux enchères de ce bel objet, que ça aurait sûrement pu être bienvenu et ça aurait pu payer les frais de justice de nos petits camarades. Alors ce soir, avec les copains, on se retrouve là, on rejoue un peu le match, hein, j'ai l'impression. On mange un super curry de légumes en écoutant Neil Young, Harvest. À table aussi, ce soir, comme hier, un gros chat vient me voir. Carlos a repris Perpète.
Aujourd'hui, vendredi 16 mars, est le jour où va être examiné le tant controversé procès-verbal D104, celui-là même qui est truffé d'incohérences de la part des policiers. N'ayant toujours pas reçu d'accréditation, je vais quitter en vitesse le studio parce qu'aujourd'hui encore, il va falloir lutter pour pouvoir rentrer. Demain matin, je repars vers ma chère et tendre montagne. Si vous souhaitez connaître le compte-rendu de la journée d'aujourd'hui, rendez-vous demain à 18h au magasin général de Tarnac. La semaine prochaine, dès mardi, c'est JB et Mickaël qui prennent mon relais pour une émission diffusée le mercredi, parce que jusqu'au bout, les habitants du plateau ne lâchent pas l'affaire. Ciao.
11 novembre 2008. Une dizaine de personnes est arrêtée ce matin-là au village de Tarnac en Corrèze et ailleurs en France.
Demain que s'ouvre en correctionnel le procès du groupe de Tarnac, 3 semaines d'audience après un feuilleton judiciaire de 10 ans.
C'est l'opération Taïga.
Voilà la fameuse épicerie de Tarnac.
Jugée pour dégradation sur des voies de chemin de fer.
Et cette communauté de quelques dizaines de militants qui continuent de se retrouver au magasin général.
Et les gens sont dans une incrédulité totale.
Les personnes qui sont arrêtées sont accusées de faire partie de la mouvance anarcho-autonome. Le village est bouclé.
Pourquoi ils sont venus vivre ici ?
Les habitants sont peu nombreux à accepter
de s'exprimer sur le sujet.
Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai ça. D'ailleurs, des habitants concernés du plateau de Mille Vaches ont décidé d'aller traîner leurs bottes dans le tribunal de grande instance de Paris. Nos envoyés spéciaux suivront donc de très près le procès de l'affaire dite de Tarnac du 13 au 30 mars. Pour vous tenir informés, retrouvez-nous du mercredi au vendredi, après la rediff du magazine de 12h30, pour un récit au jour le jour de ce que nous aurons vu et entendu pendant ce procès. Parce que les blaireaux du plateau ne lâchent pas l'affaire, rendez-vous sur les ondes de Radio Vassivière et en podcast sur le site de Radio Vassivière.